les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand un foyer pour travailleurs immigrés surpeuplés et insalubres ferme, il devient résidence sociale, répondant aux normes à présent en vigueur, en particulier l'obligation de chambres individuelles. Le nom change, les normes changent, mais cela ne résout cependant pas automatiquement, on s'en doute, tous les problèmes, notamment pas celui de la suroccupation de ce type d'établissement. En juin 2011, pour rénovation, fermait le foyer de travailleurs maliens de la rue de la Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement de Paris. Pour Sur les docks, à la veille de cette fermeture, Stéphane Bonnefoy et Viviane Noël rendaient compte de ce qu'était la vie dans ce foyer et des inquiétudes de ses habitants, dont certains étaient là depuis 30 ans, quant à l'avenir que leur réservait cette rénovation. En 55 minutes, le documentaire que l'on écoute ici restituait ce qu'était ce véritable village au cœur de la grande ville, avec ses règles et ses coutumes, avec ses artisans, ses commerces, son restaurant. Village des grandes difficultés quotidiennes, mais aussi refuge où s'organisaient les solidarités. Sur les docks, à la source de la Fontaine-au-Roi, un foyer de travailleurs maliens à la veille de sa fermeture, par Stéphane Bonnefoy et Viviane Noël, première diffusion en juin 2011.
En 2001, à la demande de la ville de Paris, Adoma reprenait la gestion du foyer de la rue Fontaine-au-Roi, quartier de Belleville, officiellement peuplé de 240 résidents. Mais combien sont-ils en réalité à s'entasser ici, parmi les souris et les cafards? Outre la récurrente question de la crise du logement qui affecte Paris, ce foyer illustre celle traversée par les foyers de travailleurs migrants issus de l'Afrique subsaharienne. Contrairement à la population maghrébine, celle-ci s'est concentrée sur la région parisienne et s'est fortement renouvelée. La demande reste forte. Le foyer Fontaine-au-Roi a fermé ses portes le 6 juin 2011 pour 3 années de travaux. Les résidents officiels ont été relogés sur d'autres sites. Faute de mieux, les suroccupants les ont suivis ou ont posé leur matelas dans le couloir ou la chambre dans notre foyer. Solidarité communautaire oblige. Les normes des nouveaux foyers, rebaptisés résidences sociales, ne comptent plus que des chambres individuelles. En 2014, le nouveau foyer de la rue Fontaine-au-Roi comptera 40 lits de moins. La question est donc loin d'être réglée. Dans cette attente, retour à la source de la Fontaine-au-Roi, quelques semaines avant qu'elle ne se tarisse. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Viviane Noël. Grand moment de solitude pour le violoncelliste Étienne Cardoz, venu donner un concert dans le foyer au printemps dernier. La salle est désespérément vide. À quelques mètres de là, dans le hall, Jean-Sébastien Bach est très loin, car c'est ici que bat la vie du foyer.
C'est le cordonnier officiel.
Cordonnier officiel. Ouais, je m'appelle Chekna. Ça fait des années que je suis au foyer. Et ensuite, j'ai plein de clients. Je suis très connu comme il faut. Les gens, ils aiment trop mon travail. Je fais artisanat.
Alors, c'est qu'Ené, je te voyais des fois l'été dehors, sur le trottoir de la rue Fontaine-au-Roi.
Oui.
Et l'hiver, donc là, dans ce petit recoin entre les escaliers, la porte d'entrée, c'est ton emplacement?
Oui, parce que le gens du foyer, le délégué, on me dit, bon, ben, comme il fait un peu froid, monsieur Silla, on veut que bon, tu restes à l'intérieur du foyer. Voilà. Je suis cordonnier, toujours cordonnier. Ah ouais, effectivement, je suis toujours. Ma mère est cordonnière et mon père aussi pareil. Voilà. Ça fait des années, je suis né dans le cordonnier. Voilà, je suis toujours cordonnier. Quand on dit les cordonniers en Afrique, et tout le monde le sait, on est bien respecté comme il faut. Comme il faut. Voilà.
Depuis combien de temps, c'est qu'est-ce que vous travaillez ici au foyer?
Moi, ça me fait 7 ans maintenant. Voilà la ouverture.
C'est la valise où il y a...
La valise.
C'est votre atelier ambulant, là.
Exact. Cela, et voilà, c'est ce que je cherche. L'aiguille, le pingle, et le petit marteau et des couteaux, et le stylo. Voilà, ils sont tous à côté de moi.
Vous vous y retrouvez dans cette valise?
Voilà.
C'est des...
Voilà, je l'ai trouvé, ils sont tous là avec moi. Je vais essayer de prendre la mesure avant que le gars il arrive. Et s'il vient, je vais descendre. Bon voilà, vous voyez.
Il faut combien de temps pour faire une paire de chaussures comme ça?
Bon ben, pour faire une seule paire de chaussures, ça me prend toute la journée à faire ça. Hein, parce qu'il y a plein de choses à faire. Hein.
Et comment va se passer le départ ici? On est fin avril.
Bon ben... Je ne suis pas content du tout qu'on me déplace. Alors, bon, moi, je cherche mon intérêt. Je ne veux pas que mon client il m'est absent ici. Il est où? Si là, il est déménagé au nouveau foyer. Bon, je ne serai pas content.
Parce que vous gagnez votre vie essentiellement
exact,
avec ce métier.
Exact. Avec ce métier. Avec ce métier. Ouais.
Vous allez quitter le foyer quand, Fontaine-Roi?
Fontaine-Roi, bon, ben, moi, j'attends que, bon, ben, si la fermeture, quoi.
Et alors là, vous travaillez sur quoi en ce moment? Là, vous étiez au repos, vous fumiez une cigarette tranquillement?
Exact. S'il n'y a pas plein du boulot avec moi, donc je suis obligé de prendre un peu du temps pour fumer avant que bon, ben, le client ils vont venir. Ben, si le client qui arrive, qui n'aime pas les cigarettes, ben, bon, ben, il faut respecter aussi le client. Ben, bon, je ne fume pas devant eux. Voilà.
Ça, poubelle.
Non, c'est poubelle.
Je ne sais pas. Parlez français. Parlez français. Fatigué. J'ai pas monnaie.
Vous vendez vos produits aussi ici? Oui?
Un peu.
Vous achetez aussi des produits chinois? Qu'est-ce que c'est qu'elle vend?
C'est la crème.
C'est asiatique?
Ouais.
Et ça se vend aussi ici au foyer?
Tu voulais que je montre?
Ouais.
Hein? C'est un médicament. Tu manges comme ça la nuit.
C'est des aphrodisiaques?
Non, non.
Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des femmes nues. C'est pas pour dormir, ça?
Ah non,
c'est pour travailler.
Pas
pour
ça, c'est pour travail.
Quel genre de travail?
Travail de l'amour avec les femmes.
C'est les Chinois qui l'amènent.
Mais tu sais, tous les hommes qui n'est pas fort maintenant, à partir de 50 ans, les hommes qui ça descend. Hein.
Ah ouais, c'est pour ça.
C'est une sorte de Viagra, quoi.
Voilà, exactement.
Eh oui.
Et hormis les chaussures, alors Sénéqué, vous faites quoi?
Le gris-gris, on...
Le cordonnier n'est pas un marabout?
Non, on n'est pas marabout, on est très loin d'être marabout. Nous, on est toujours à côté du marabout, on est toujours les guerriers, à côté des guerriers. Le guerrier a toujours besoin des cordonniers. Le marabout a toujours besoin des cordonniers, on ne peut pas travailler sans eux. Le guerrier, à l'époque, il ne peut jamais travailler sans nous. On est toujours à côté. C'est nous qui faisons leur truc. Et s'ils ont de quelque chose, ils vont appeler le cordonnier. Est-ce que vous n'avez pas de cordonnier ici? Appelle-moi lui. Il va venir directement chez lui. On ne fait pas ça publiquement. On se déplace directement d'aller chez lui, aller travailler avec lui. Voilà. Et après le travail, ils nous donnent aussi du mouton. Ils sont contents. On ne peut pas faire des choses en publiquement. Même avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir tout de suite. Monsieur Silla, est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? J'ai dit, ben pourquoi pas, je suis là uniquement pour vous. Est-ce que tu peux te déplacer pour venir avec moi dans ma maison? J'ai dit, ben je suis là uniquement pour vous. Il m'a invité, je suis parti chez lui. Je travaillais pour lui. Il m'a fait manger bien. Il m'a bien respecté. Il m'a bien respecté. Il m'a bien respecté.
Si le cordonnier n'est pas un marabout, il est un conteur exalté, mais aussi pudique quant à son avenir. Sénéké est un des nombreux suroccupants du foyer. Il devra trouver un autre lit, passé le 6 juin. Si Sénéké est le gardien volubile de la fontaine au roi, ce n'est qu'à force d'attente que vous entrez dans les maux du foyer. Le temps ici est long comme une saison, mais fertile comme une récolte. Inutile de s'agiter, de traverser les couloirs soudainement désertiques. Le mieux est d'attendre. Attendre que l'on vous offre un siège près des anciens ou des épiciers qui peuplent le hall d'entrée, la place du village. Vous serrez une main, puis deux, enfin une troisième, tout aussi chaleureuse que mutique. Vous réapprenez par la patience votre métier. Une fois à peu près installé à l'intérieur, vous affrontez une foule de sentiments contraires. Que penser de ces espaces fourmillants de sans-papiers et d'occupants illégaux qui, selon les rapports parlementaires, évoluent en dehors des lois républicaines, mais où les résidents officiels sont à 80% des travailleurs salariés désirés par notre société. Des rapports publiés sans trop de tapage, car l'insalubrité, la pauvreté et l'illégalité sont ici à peu près contenus, presque invisibles depuis l'extérieur du foyer.
Camara Ousmane, et vous êtes arrivé en 2001, c'est ça ?
Voilà, je suis arrivé en 2001.
Et vous êtes parti. Et vous ne reviendrez plus au foyer ?
Non, non. Pour moi, c'est définitif, en fait. C'est parce que je n'ai pas de lien à mon nom, c'est mon vieil là qui était là, mon père. Mon père, il était là depuis 72, 73.
Vous arriviez d'où ?
Je suis arrivé du Mali. Je suis venu seul.
Et votre père ?
Mon père, il est en retraite là, il est rentré au pays. Il y a toujours des remplaçants. Il y a l'autre qui vient et il y a l'autre qui part.
Et vous pensez qu'il se passera la même chose avec vos enfants ?
Ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est de rester au pays et étudier et avoir un travail tranquille chez eux là-bas. Je ne vais pas faire comme moi. Parce que moi, j'ai perdu trop de temps et puis voilà.
Pourquoi trop de temps ?
C'est parce que je fais 10 ans, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de femme, je ne vois pas la famille. Je n'ai pas eu ce que je veux encore. C'est ça, j'ai dit, j'ai perdu.
C'est difficile ?
C'est tellement douloureux. En fait, ça me fait mal au cœur quand je pense souvent. Je m'énerve tout seul, en fait. J'ai dit, mais pourquoi j'ai choisi cette vie-là ? Si je savais, ils n'allaient pas venir, en fait.
De là-bas, vous rêviez à une vie meilleure ici ?
Oui. Ici, quand tu venais, si tu n'as pas de papier, c'est que tu n'as pas de vie.
Le fait de ne pas avoir de papier, ça vous tourmente aussi beaucoup ?
Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'avec la politique d'immigration, tout ça là, à chaque fois, on change les systèmes. Et puis les conditions, ils sont tellement dures.
Et vous étiez ici en septembre 2005, quand il y a eu les descentes pour la suroccupation dans le foyer ici ?
Ah oui, quand les policiers ont intervenu, la première fois j'étais le premier rang. J'ai fait face à l'officier même, à l'escalier ici.
Oui, c'était le 30 septembre 2005, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. À 5h du matin, en ce moment j'étais à la salle. Avec les amis, on est en train de jouer, tu vois, les belotes et tout ça. Ils ont appuyé sur l'arme et puis tout le monde est descendu.
L'alarme, oui.
Oui, c'est ça. Ils sont venus juste pour vérifier qui dort à côté de qui et tout ça. Et voilà, sinon ils ne sont pas venus pour nous faire du mal et puis voilà. Non, on a dit non, ce n'est pas normal à 5h du matin. Imaginez, si c'était vous, à 2h du matin, on va réveiller vos enfants et vos familles. Bon, après, il dit non, ce n'est pas de notre faute. C'est une décision qui vient de son contrat, tout ça là. Voilà quoi.
La vie au foyer, ça ne vous convient pas tellement ?
Ben, si, ça nous convient si ils nous laissent vivre ensemble. Mais s'ils ne veulent pas, à chaque fois, il y a des problèmes. Comme le cas actuellement là, quand les gens déménagent pour aller ailleurs, et puis il y a certains qui n'ont pas de lit, ceux qui n'ont pas de lit à leur nom, ils ne veulent pas qu'ils vont aller dormir à côté d'eux. Ils vont empêcher ceux qui n'ont pas de papier ou ceux qui n'ont pas de lit à leur nom. Ils ne veulent pas qu'ils viennent. Tout ça là, c'est pour changer. C'est pour que... Voilà.
C'est pour limiter la suroccupation du...
C'est ça. En grosso modo, ça veut dire ça, quoi.
Donc il y aura moins de place pour vos familles aussi.
C'est ça.
Et ça va poser un problème.
Grave même. Après, il y a certains qui vont se retrouver dans la rue, en fait. Ça veut dire ça, quoi.
C'est toujours aussi animé la partie de cartes ici. C'est toujours aussi animé la partie de cartes.
Oui.
Ici il y a des cartes. Il y a des Maliens, Sénégalais, Mauritaniens, Gambiens, Guinéens, toute l'Afrique qui vient ici. Tu es comme chez toi. Bon, on s'amuse, on travaille ensemble, on rigole. Jusqu'à 6h du matin. Il y en a qui ne travaillent pas jusqu'à 6h du matin. Ouais. Il n'y a pas de problème.
Toujours à ce rythme.
Toujours. Surtout samedi dimanche. Il y a ambiance. Ouais, on est là pour ça.
Et à quoi vous jouez?
Ben, c'est les bolottes. Voilà, c'est comme ça. Il ne sait pas jouer.
Et vous ne savez pas jouer, il paraît.
Moi, c'est un champion, moi. C'est plus champion, c'est moi.
Non, il n'est pas champion. Il n'est jamais champion ici.
Et il a perdu.
Ouais, il a perdu.
Ouais, il a perdu.
Quand il est perdu, il est comme ça. Il est nerveux, tout seul.
Et voilà le champion qui est rentré en lice.
Attention. Lui, c'est pas un champion.
Kassa, Bobune, Alondo. Mare, Wachi, Salopar. D'accord. Allez. Eh, tu as la plou.
C'est vous le meilleur joueur du foyer.
Oui.
Non. C'est moi, lui.
C'est moi le meilleur joueur du foyer. Mais comment, hein?
Vous l'avez pas. Tout clair.
Pour ça, sur le parquet, t'as quoi là?
Ouais. Ça va, Edouard?
125, 128. Attendez.
Samba, il a 12-14.
Il y a deux
canels. Ouais.
20, 30, 50, 54, 68.
Le foyer était géré par une association qu'on appelle Sundiata. Et puis Sundiata a continué à gérer le foyer jusqu'aux années 2000. Et puis après, ils ont laissé le relais à la Sonacotra, qui s'appelait Adoma maintenant, quoi. Donc il a pris le relais, qui a quand même fait un certain nombre de changements. La Sundiata était toujours d'accord avec les résidents, donc ils vivaient comme ils veulent, ils ont certaines habitudes qu'ils ont pu garder. Et puis avec la Sonacotra, c'était un changement radical. Parce que au début, ça a été très difficile quand même. Ils ont fait descendre la police ici à deux reprises. Parce qu'ils ne voulaient pas des surnuméraires, c'est-à-dire les gens qui dorment en bas.
Ici, vous êtes combien dans votre chambre?
Là, ici, nous sommes. Il y a deux lits ici. Ça, c'est une chambre à deux lits.
Ouais, en fait, vous êtes cinq.
Oui, voilà, il y a cinq. C'est la vie collective, en fait, qui nous pousse à. Donc à aimer, à vivre ensemble dans des chambres à deux ou à trois.
Et ça, vous n'avez pas réussi à l'obtenir d'Adoma?
On n'a pas réussi à l'obtenir d'Adoma, ni de la mairie. Hein. La loi ne permet plus maintenant qu'on mette des chambres à deux ou à trois lits dans des résidences sociales. Donc une résidence sociale doit avoir seulement des petits studios, c'est-à-dire des chambres individuelles. Donc, nous serons obligés de se retrouver dans une chambre pour discuter. Parce qu'on ne peut pas, nous, être tout seul, chacun tout seul dans son coin, ce n'est pas possible.
Normalement, officiellement, vous êtes combien de résidents ici?
Officiellement, nous sommes, disons, 240 résidents.
Ça, c'est la capacité d'accueil, normalement, réglementaire.
Capacité d'accueil réglementaire. Mais quand même, nous sommes des immigrés, nous aurons nos fils, nous aurons nos frères. Qui vont venir, on ne sait pas quand, mais quand ils viendront, nous allons les accueillir. La Sundiata était d'accord sur ce principe-là. Et la Sonacotra, au début, était d'accord sur ce principe. Et c'est après qu'ils ont dit, non, mais c'est pas possible, pourquoi il n'y a que 240 personnes, mais bon.
Et a priori, selon vous, combien le foyer accueille réellement de gens?
Réellement, je ne peux pas dire exactement combien. Mais je sais quand même qu'il y a pas mal de surnuméraires, quoi. On peut trouver un ou deux quand même par chambre.
C'est-à-dire c'est deux ou trois fois au moins la capacité?
Voilà, je pense que ça va aller vers là. Le Sonacotra a des règles bien définies, donc...
Elle les applique, mais quand même, avec vous
elle
aujourd'hui...
Elle les applique avec nous, mais finalement...
Vous arrivez quand même toujours.
On arrive à tenir, et puis elle est obligée de nous laisser vivre comme ça, parce qu'elle sait que c'est de toute façon, c'est pas possible. Quoi.
Oui, notamment grâce à l'action du fameux comité de résidents auquel vous appartenez, camarades.
Oui, oui, du comité de résidents surtout, oui, du comité de résidents qui est un trait d'union entre les résidents et donc les gestionnaires qui est l'ADOMA.
En quelque sorte, c'est un peu vous qui faites office vraiment de comité directeur, on va dire, parce que les grandes décisions, c'est
ça,
vous.
Ça vient de nous, oui. Les grandes décisions, c'est nous qui les prenons, qui on dit à ADOMA, écoutez, voilà. C'est comme ça qu'on peut vivre, nous, il faut que vous nous laissez vivre de cette façon-là.
Parce qu'en fait, ce foyer reconstitue en quelque sorte le peuple soninké. Hein,
ici, je peux vous dire qu'il n'y a que des soninkés, en fait, presque. Il y a quelques rassonkés ici, mais bon, aussi ils parlent soninké, donc ils sont comme des soninkés, quoi, en fait.
Donc, c'est-à-dire mauritaniens, maliens, sénégalais.
Mauritaniens, maliens, sénégalais, oui. Mauritaniens, maliens, sénégalais.
Avec une majorité de...
Des mauritaniens.
Et donc le comité est composé aussi de toutes ces composantes.
Le comité est composé de toutes ces composantes-là, de chaque touché. Il y a 8 touchés ici, donc chaque touché a un représentant dans le comité. A au minimum un représentant dans le comité.
C'est quoi un touché ?
Touché, c'est un membre de famille, je vais dire une tribu. Donc l'ethnie, dans l'ethnie soninké, il y a plusieurs tribus. Vous voyez ? Donc, chaque tribu constitue ce qu'on appelle une touchée. Il y a des cotisations mensuelles, quoi. Chaque résident cotise, par exemple, une somme bien déterminée. Et puis, les jeunes sont chargés de la cuisine. Et puis, voilà, on mange tous ensemble. Celui qui ne peut pas payer, ben, il ne cotise pas. Celui qui ne travaille pas, il ne cotise pas.
Mais il mange, quand même.
Il mange. Il mange comme tous les autres.
Alors, comment sont choisis les membres, justement ?
Les membres, ils sont choisis par la tribu, c'est-à-dire les touchés, en fonction de leur savoir-faire.
Voilà. C'est-à-dire, ça dépend de son niveau d'études ?
Ça dépend de son niveau d'études, ça dépend aussi de ses motivations, de sa volonté de faire, de travailler pour les autres. C'est surtout ça.
Et vous, camarades, alors, vous avez accepté la charge qu'on vous a proposée.
Moi, j'ai accepté parce que, en quelque sorte, j'étais obligé.
Votre niveau d'études aussi a joué ?
Bien sûr que oui, c'est tout ça qui a joué.
Vous êtes professeur de mathématiques, c'est
professeur
ça ?
Professeur de mathématiques, oui. Ouais.
Ingénieur statisticien même ?
Oui, ingénieur statisticien de formation, quoi, parce que j'ai un diplôme d'études approfondies en statistique mathématique.
Et pourquoi Camara avoir fait le choix de demeurer dans ce foyer dans des conditions qui sont de vie, qui ne sont pas toujours simples ?
Oui, c'est pour rester dans la famille, quoi. Donc je sais quand même qu'après mes études, si je ne suis pas rentré au pays pour servir mon pays, au moins si je peux quand même servir ma communauté ici en France. Et pour cela, rester avec eux dans le foyer comme ça, et puis s'en charger de tout ce qui est leur démarche administrative, tout ce qui est... les problèmes du foyer, etc. Donc c'est utile. Je peux être utile dans ce sens-là, donc raison pour laquelle j'ai choisi de rester.
Vous êtes un peu le directeur occulte du foyer, en fait à plusieurs un peu parce que...
Bon, on peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça en quelque sorte. En quelque sorte, oui. C'est le représentant des résidents du foyer.
Parce qu'ADOMA sait que si ça fonctionne aussi ici, c'est grâce au comité.
Oui.
Vous comprenez, vous, Camara, que ce soit difficile d'accorder entre vos traditions, votre manière de vivre ici et la leur. Comment est-ce que vous allez réussir à vous mettre d'accord, au retour notamment ? Qu'est-ce qui va se passer selon vous ?
Nous serons, chacun doit obligé de faire des compromis parce que nous, de notre côté, certaines habitudes, on sera obligé de les changer. Et eux, de leur côté, ils doivent céder. Ce mode de vie, cette façon de vivre, ces habitudes-là n'ont jamais posé de problème à qui que ce soit. Tout se passe très bien. Hein. Vous voyez, un bâtiment comme ça, où on peut trouver 200 ou 300 personnes qui y vivent, qui n'ont posé aucun problème, ni au quartier, ni à qui que ce soit. Donc les gens, c'est comme s'ils étaient dans un village du pays, en fait. Le foyer est comme un village. Il y a un chef de village, il y a les habitudes, toutes les habitudes qu'ils avaient. Vous voyez ? Donc, tout marchait très bien. On est conscient que certaines choses, on doit les changer, nous.
Ça, c'est-à-dire,
c'est sûr. Dans le nouveau bâtiment, c'est-à-dire le prochain foyer, il y aura une cuisine collective. Vous voyez que la façon dont la cuisine marche actuellement, ils nous ont dit que ce n'est plus possible. Il faut que la cuisine soit déclarée, gérée par une association, déclarée, etc. Nous avons accepté ça.
Thank you. C'est quoi le plat du jour? C'est quoi?
Le riz gras, le mafé, la salade, les pieds de veau, les spaghettis, haricots, yassa.
Abdelkader, quel est le plat du jour aujourd'hui au restaurant de Fontainebleau?
Frites et chicken wings. Aile de poulet.
Vous venez souvent manger ici?
Une ou deux fois par semaine. Ça remplit un rôle social. Parce que franchement, trouver à manger pour 1,80€, c'est pas évident. Et les personnes, bon, voilà, ça leur permet au moins d'être autonomes au niveau nutritif pour une somme d'argent, somme toute assez modique. Même pas le prix d'un demi. C'est très pratique.
Et c'est bon?
C'est pas mauvais. Sincèrement, c'est pas mauvais.
Et alors, quand le restaurant va fermer, le foyer va fermer
Je vais essayer d'en trouver un autre.
Il y en a d'autres dans le quartier?
Ouais, je crois. Il y en a un autre à côté de Belleville, là. Mais que j'ai pas encore testé. Mais c'est vrai que ça va faire un manque.
Il y a beaucoup de gens du quartier qui viennent?
Oui, beaucoup de gens du quartier, voire d'autres quartiers. Hein. Des gens qui viennent ou travailler dans le coin, ou bricoler, entre guillemets. Les gens, par exemple, qui sont au-dessus, là, au marché, marché des chineurs ou des chiffonniers, hein, viennent souvent manger ici. L'aspect pratique aussi, c'est qu'on peut prendre à emporter. Parce que c'est vrai que des fois, l'endroit, par rapport à la population, c'est pas... Enfin, on voit pas mal de misère, quand même.
Et l'ambiance du lieu, pour vous, c'est important ou pas du tout?
Non, franchement, l'ambiance du lieu, j'en ai rien à cirer. Parce qu'il n'y a pas d'interaction entre les gens, chacun et... Non.
Vous venez pour des raisons financières ou uniquement pratiques?
Les deux. Économique et pratique. Parce que je peux pas me faire à manger chez moi pour 1,80€, c'est pas possible, quoi. Puis des fois, bon, voilà. Des fois, j'ai très peu d'argent, donc au moins, j'ai un repas.
Merci, bon appétit.
Merci. Bon appétit, Baba. Excuse-moi, j'étais en interview.
Parce que pour l'instant, la cuisine fonctionne avec...
Pour l'instant, comment ça fonctionne? La cuisine, c'est en quelque sorte les résidents, le comité qui les gère. Enfin, le gère d'une façon un peu hiérarchique quand même.
Et les bénéfices vont à la caisse du comité. Donc
Les bénéfices...
Le comité est riche.
Non, les bénéfices ne vont pas à la caisse du comité. Les bénéfices vont aux cuisinières. Le comité a 150€ par semaine, tout simplement. Et ça, ce n'est pas au comité, c'est aux résidents.
C'est l'impôt que prélève le comité.
Voilà, que prélèvent les résidents. Parce que ces 150€, ce n'est pas pour le comité.
Et l'épicerie fonctionne de la même manière?
L'épicerie, non. L'épicerie ne fonctionne pas de la même manière. L'épicerie, qu'est-ce qui se passe? Il y a 8 touchés, je vous avais dit. Donc, il y a 8 places dans l'épicerie. Chaque touché a une place. Donc, chaque touché donne sa place au plus vieux, c'est-à-dire au plus âgé. Dans le futur foyer, dans 3 ans, ça ne sera plus comme ça. De toute façon, il ne va pas y avoir de place pour ces gens-là. L'épicerie va disparaître. Il y a même des salles de coiffure qui vont disparaître. Et puis, ces tables que vous voyez, ces vendeurs ambulants que vous voyez dans le hall, tout ça vont disparaître, en fait. Voilà, c'est ça la différence. Ça, okay.
Commence à déménager.
Merci. Oui, ça commence à déménager. Toujours. Vous voyez, donc je pense que ces gens-là vont partir aujourd'hui, peut-être. Bonjour.
Et la salle de prière?
Elle est là-bas, la salle de prière. Alors, au bâtiment A, il y a un rez-de-chaussée. Voilà la salle de prière. Elle est fermée. Il y a un tapis, j'ai juste l'oublié quand même.
Donc, dans le nouveau foyer pour l'instant?
Dans le nouveau foyer pour l'instant, on n'a pas eu gain de cause. La demande n'a pas accepté encore.
Et alors, comment ça se passera pour la prière, alors?
Ça va être compliqué. J'ai peur que les gens utilisent le hall ou les couloirs pour faire la prière collective. Et ça, ça n'arrange ni les résidents, ni Adoma. Raison pour laquelle on a beau expliquer à Adoma et à la ville de Paris qu'il est vraiment utile, essentiel au moins que les résidents puissent avoir une salle de prière nécessaire, est-ce que 30 mètres carrés. Ben, jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu nous entendre. Mais je crains qu'au futur foyer, les gens ne créent eux-mêmes une salle de prière, c'est-à-dire soit dans le couloir, soit dans le hall, soit quelque part, et puis ça risque de poser des problèmes.
Parce que vous n'allez pas prier à la mosquée du quartier ?
Premièrement, c'est un peu loin. Et puis la mosquée la plus proche ici, c'est la mosquée Omar. C'est une mosquée, ce n'est pas une salle de prière, vous voyez. Il y a une petite différence entre salle de prière et mosquée. Parce que mosquée, il y a tout le monde qui vient de la ville et tout. Et leurs horaires ne correspondent pas surtout à nos horaires. Parce que parfois, ils font la dernière prière de la nuit, ils le font à minuit. Et l'autre à 4h du matin. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui se réveille à 5h du matin pour aller travailler, de faire la prière à minuit, dormir, se réveiller à 4h du matin et après aller travailler. Alors qu'ici, nous, on peut le faire à 11h15. Celle qu'elles font là-bas à minuit, on le fait ici à 11h15 et l'autre, on le fait à 5h. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas la même chose quand on a nos imams qui nous font la prêche, par exemple, qui nous expliquent les textes en sonique dans notre langue que là-bas... L'autre, c'est géré par des musulmans, bien sûr, comme nous, mais qui parlent d'autres langues qu'on ne comprend pas forcément. Quoi. C'est ça qu'on voulait expliquer à Douma. Et finalement, bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu gain de cause. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la salle de prière. Et puis, là aussi, il y avait une famille, elle est partie.
Ah, bonjour. Bonjour.
Tu vas bien ?
Comment tu vas ?
Ça va très bien.
Ça va ?
Et toi ?
Ah ben ça va, je suis là.
Mais tu n'as pas déménagé à Bonne-Graine, tu m'as dit ?
Hein ?
Tu n'as pas déménagé à Bonne-Graine ?
Si, mais sûrement, moi, j'ai pu te quitter le foyer. Quoi.
Ah, tu vas partir du foyer ?
Ouais, sûrement.
Pourquoi ?
Parce que j'ai trouvé quelque chose.
Tu as trouvé quelque chose ?
Ah, il faut que j'y aille, quoi. J'en ai fait assez... Bon, enfin... J'ai vécu ici, mais c'est bon, là, il est temps que je parte maintenant.
Tu as trouvé quoi, alors ?
J'ai trouvé un appart.
Un appartement ?
Ouais.
C'est un nouveau départ alors pour le coup ?
Bon, enfin, c'est un nouveau départ, mais bon, enfin, ce départ-là, ben, je pouvais le faire depuis longtemps, comme je t'avais dit. Hein. Ben, comme ici, donc, la plupart des gens ne sont pas été à l'école, et puis donc, ils m'ont retenu, même mes parents, mon oncle, mon père, ils voulaient que j'arrête ici, voilà, quoi, pour rester au comité et tout. Parce que si je quitte ici, il fallait que je quitte le comité aussi.
C'est le comité des résidents qui avait besoin de toi aussi.
En fait, ouais, tout à fait. Et puis encore Adoma aussi, qui sont jusqu'aux travaux, quoi, en gros, quoi.
Ouais, parce que tu aidais à pacifier les relations.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà.
Mais le mode de vie change beaucoup entre ton père, par exemple, toi qui as vécu au foyer ici avec ton père dans la même chambre. Mmh. Est-ce que ça change beaucoup entre les anciens et les jeunes comme toi?
Le mode de vie n'a pas vraiment changé parce que donc, c'est notre culture. Quoi. C'est un endroit où ils peuvent vivre et envoyer de l'argent au pays. Donc ici, on a un mode de vie où c'est-à-dire, chaque famille donc, cotise entre eux. Et c'est ça, mais c'est le mode de vie, l'ancien et le nouveau, il n'y a pas de changement. Mais les jeunes, ils n'aiment plus habiter au foyer. Quoi. Donc voilà, quoi. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent partir.
Pourquoi ?
Le foyer. Les jeunes, ils veulent voilà, vivre avec leurs petits copains, leurs copines, leurs petites copines et tout. Et puis voilà, quoi. Nous, c'est au foyer. Donc pour nous, il y a ton père, ou même s'il n'y a pas ton père, il y a tes grands frères qui sont là. Donc pour eux, ils ne veulent pas amener des petites copines au foyer. Et puis donc pour eux, s'ils sortent pour draguer les filles, ils n'osent pas dire que ouais, j'habite au foyer. Et puis voilà, quoi. Donc,
mais toi, Samba, tu as une petite amie, toi, qui vit au Sénégal.
Moi, je suis marié.
Tu es marié même.
Moi, je suis marié et j'ai 3 enfants et puis voilà, qui vit au Sénégal.
Et donc ton projet, en fait, toi, tu es venu ici pour aider ton père, pour envoyer de l'argent à ta famille là-bas.
C'est l'objectif de tous les Africains qui viennent ici, c'est comme ça, quoi. Donc, je peux remonter un peu l'histoire, quoi. Donc, il dit que les Africains préfèrent avoir des garçons pour les aider à cultiver les champs. Maintenant, donc, jusqu'à présent, les Africains préfèrent les garçons pour aller immigrer et pour chercher de l'argent, pour les aider à nourrir la famille. Quoi.
Toi, voilà. Tu as envie, Samba, que tes enfants étudient au Sénégal et qu'ils restent vivre au Sénégal?
Oui, mais pour l'instant, mon objectif, c'est qu'ils étudient. Ben, c'est des Français comme moi. Ils ont leur papier français, ils sont couverts par l'ambassade de France déjà. J'aimerais bien qu'ils étudient, qu'ils soient là-bas ou ici, l'essentiel qu'ils vont à l'école. Quoi. Mais j'aimerais bien qu'à bas âge, qu'ils restent là-bas.
Tu vas faire quoi dans les prochaines années?
Pour l'instant, je suis là. C'est ce que je voulais, mais si j'ai des sous maintenant, je vais retourner, je vais monter mon projet déjà. Donc, je suis prêt à monter un projet d'électricité. Et puis, mais je n'ai pas de sous déjà. Quoi.
Au Sénégal?
Au Sénégal. Donc, voilà, ici, je ne peux pas. Parce que j'ai essayé, ici, je ne peux pas. Donc, tous les charges sont lourdes. Et puis, voilà, quoi. Donc, il faut beaucoup de temps. Et les charges sont trop lourdes. Je ne peux pas faire ça. Quoi.
Et l'état d'esprit des résidents à un mois, presque à moins d'un mois de la fermeture du foyer, comment est-ce qu'ils vivent la fin de ce cycle ici à Fontaine-Roi?
Ouais, un peu triste quoi. Franchement, ils sont un peu tristes. Bah, déjà, ils sont éparpillés. Donc, ils sont éparpillés. Donc, c'est ça qui inquiète pas mal de gens. Quoi, ça. C'est-à-dire, la communauté que je vous avais dit, que les cotisations qu'on fait pour cotiser, pour payer à manger et tout aussi, ça rentre pas mal de gens. Et ce genre de comité va, voilà, franchement, elle va disparaître. Donc, chacun pour soi, et puis encore chacun va cuisiner pour soi et tout. Et c'est ça qui leur inquiète un petit peu aussi.
Ouais,
et puis,
voilà, toute la solidarité qu'il y avait ici, pour l'instant, elle est un peu éclatée. Quoi.
Un petit peu. Un petit peu.
C'est là que vous travaillez alors, Salou?
Non, pour l'instant, oui, mais pas toujours.
Et vous faites quoi comme vêtements?
Moi, c'est des vêtements des femmes.
Ça s'appelle une camisole.
Et vous êtes bien installé là? Dans le couloir?
Non, pas du tout. Là, c'est pour deux ou trois jours, c'est tout. C'est pour dépanner, parce que comme je pars, donc j'ai obligé de terminer ce que j'ai et puis...
Parce que la machine à coudre, vous la mettiez où avant?
Ben là, j'étais chez moi. Dans
votre chambre?
Ouais. Je suis originaire de la Mauritanie. Mon village même, c'est à Tachot.
Et vous êtes arrivé en France en quelle année?
Je suis arrivé en France le 2 février 1974.
Donc là, on est le 23 mai. Vous savez quand est-ce que vous allez quitter le foyer?
À partir du 31 mai, moi, je vais quitter le lieu ici pour aller à Bonne-Grêle, 14 passage Bonne-Grêle. Voilà, dans le 11e, toujours.
Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui?
Bon, les différences aujourd'hui, pas facile de trouver un logement. Parce que pourquoi? Moi, ce que je gagne, je n'arrive pas à prendre un appartement. Moi, actuellement, bon, je travaille pas. Je suis un chômeur. Où je suis là? Je somme. Mais, bon, j'ai un petit métier que je bricole sur la machine à coudre pour faire des retouches des vêtements et pour faire les vêtements de chez nous-mêmes aussi.
Donc, en fait, le foyer, c'est aussi une source de revenus pour vous parce que vos clients viennent beaucoup du foyer, de l'extérieur aussi?
De l'extérieur, bien sûr. Il y en a qui viennent de l'extérieur. Il y en a qui viennent à l'intérieur même. C'est mieux que de rester comme ça, sans rien faire.
Ce mode de vie que vous aviez ici, cette solidarité, cette entraide, est-ce que vous pensez la trouver aussi là-bas?
Non, pas du tout. Là, je cherche une solution, mais il n'y en a pas. Où on part déjà, c'est pas assez la place. Il n'y a pas assez de place pour faire ça.
Vous allez devoir abandonner votre activité de couturier?
C'est quasiment total d'abandonner ça. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. Et cette chance-là, et je crois qu'à partir du 31, 5e mois, c'est, c'est terminé, quoi.
Et vous parliez, Salou, du rapport entre les anciens et les jeunes. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Quels sont les problèmes en fait qui se posent entre les générations au foyer Fontaine-au-Roi?
Nous, ce qu'on accepte de vivre, eux, ils n'acceptent pas ça.
Pour vous, c'était plus dur, vous pensez, c'est ça?
Pour nous, comme on a vécu comme ça, bon, c'est pas dur pour nous. Pour nous, c'est une communauté qu'on doit vivre comme ça. Parce qu'ils disent que nous, on n'est pas intégrés. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, peut-être qu'ils ont raison aussi. Et il y en a d'autres en plus parce qu'ils ont, il y en a beaucoup qui sont pris à pied, qui savent lire, qui savent écrire, qui savent parler bien le français comme il faut. Et ils ont cette sens plus que nous. Donc ils ont, je crois qu'ils ont beaucoup d'avantages, plus que les anciens.
Et vous, Salou, vous vous sentez intégré?
Ça dépend. Moi, je me sens intégré parce que je peux vivre intégré, mais j'imagine ce qu'il y a, je ne peux pas vivre seul.
C'est difficile d'être intégré quand on vit dans un foyer.
Ah, c'est pas facile. Parce que là, tu sors au foyer, tu rentres, et je crois que tu vas pas te promener dans la ville, de rentrer dans les restaurants, de rentrer dans les cafés ou de partir visiter des grands lieux, des trucs comme ça. Bon, là, quand tu rentres dans le foyer, tu quittes au boulot, tu rentres dans le foyer, c'est terminé. C'est comme on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire c'est comme on vit toujours dans notre pays. Le mode de vie que j'ai ici, c'est comme la vie que j'amène à Mauritanie. C'est presque quoi. Je suis intégré, mais pas totalement. Les gens, ils sont plus intégrés que nous.
Et ça tient à quoi, selon vous, Salou?
Nous, quand on était jeunes, 90% ils n'ont pas étudié. Donc celui qui est instruit et qui vient dans un pays plus beaucoup développé, là, il cherche toujours en avant. Il cherche toujours d'avancer.
Et vous, Salou, vous verriez vivre ailleurs qu'au foyer?
Actuellement, je ne peux plus. Vous voyez, c'est comme je suis toujours au pays. Quand je suis dans le foyer, c'est comme je suis toujours au pays.
Vous avez la nostalgie de la Mauritanie, souvent?
Ouais, mais la nostalgie, c'est pas la nostalgie de la Mauritanie seulement, mais c'est la nostalgie du mode de vivre. On a du bruit à gauche, à droite, on a des cris, on entend des cris, on bouge. Pour laisser ça dans ce coup, ça fait, c'est très difficile.
Vous ne supportez pas la solitude, Salou?
Non, moi personnellement, je ne supporte pas ça. Je n'arrive pas à supporter. Je me mets mal à l'aise, quoi, vous voyez.
Et comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les prochaines années?
Moi, j'ai vécu ma vie en immigration. C'est très difficile. C'est pas facile de vivre dans un autre pays. Je veux pas que mes enfants ils vivent la même chose que moi. Ce que j'ai vécu, c'est très difficile.
Parce que beaucoup d'anciens ici ont appelé leurs enfants, leurs aînés, pour venir travailler en France. Vous ne ferez pas ça, Salou?
Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas que mon enfant sera mis en immigré comme moi. Parce que tu te sens, il y a des jours, tu te sens quand même, tu n'es pas chez toi.
En même temps, vous ne vous sentez plus tout à fait mauritanien non plus?
Mais actuellement. Mais oui, mais ça, là, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Donc j'ai un esprit qui est ici et j'ai l'autre qui est là-bas.
54.
Et 3. On est en train de partir.
Et vous partez où?
À Bonne Graine.
À Bonne Graine.
14 passages à Bonne Graine.
Et vous étiez là depuis quand ici?
Depuis 96, moi je suis là.
96?
Ouais.
Alors le départ, ouais. Comment ça se passe?
On n'est pas choix, il nous a forcé, on n'est pas choix. On est parti, on a eu les cendres, ils sont c'est les cercueils.
Comme un petit cercueil?
C'est comme c'est les cimetières, presque c'est la cimetière.
Parce qu'ici vous aviez plus d'espace.
Voilà, par rapport là-bas. Oui.
Mais bon courage alors.
Allez, au revoir.
Dabou, tu as quitté le foyer quand?
En 90.
Et tu reviens, là on se croise aujourd'hui?
Tous les jours je viens voir des anciens collègues, des cousins, des frères ici qui habitent depuis 30 ans. Mon frère est là depuis 30 ans.
Et dans quelles circonstances tu as pu quitter le foyer? Comment ça s'est passé ton départ?
Parce que déjà l'atmosphère est très très dure à vivre. On est tous l'un sur l'autre, il n'y a pas d'intimité, on ne peut pas se reposer. C'est tout le temps des conflits, mais on essaie de vivre avec, mais c'est très très difficile. Donc j'ai cherché un studio en dehors d'ici et je suis parti. Et depuis, ça m'a permis d'avancer, de connaître la culture française. J'ai des amis français, des Australiens. Bref, je suis devenu universel en quittant le foyer. Je serais resté, je serais encore toujours comme eux, quoi. C'est-à-dire vivre entre nous, faire tout entre nous, n'est pas... Moi, je me suis inscrit dans une école Fontenoy 59. Pour l'alphabétisation. C'est ça qui m'a permis d'ailleurs de vous parler aujourd'hui.
Est-ce que vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivé?
Non, quand je suis arrivé, je ne parle pas un mot en français.
En quelle année c'était?
C'était en 88, le 17 août 88. C'était un mercredi. Je suis venu par Orly à 19h. Tout est dans ma tête.
Et vous aviez quel âge?
Et j'avais 14 ans à peu près. Et j'avais fait les écoles coranées qu'on appelle les madras. Parce que moi, je suis les tennis soninké. Et quand j'étais jeune, tout le monde allait à l'école coranée. Quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à Orly. J'étais impressionné déjà par la lumière, par les gratte-ciel de Paris en quittant dans mon village là-bas. Bref, vous apprenez tout par vous-même, quoi. Et c'est ça qui est très difficile de vous intégrer.
Vous en êtes plutôt bien sorti, vous estimez?
Ouais, grâce à Dieu, grâce à des connaissances. En quittant au foyer, en habitant en dehors des foyers, dans les appartements, j'avais des voisins, une voisine qui s'appelle Natacha, qui parlait cette langue, une française, il restera dans mon cœur, Natacha, jusqu'à la fin. Voilà. C'est elle qui m'a permis d'ailleurs m'inciter, Boubacar, tu es intelligent, il faut que voilà, tu commences à lire, à écrire en français, c'est très important, ça peut te servir dans l'avenir.
Et quels souvenirs vous gardez du foyer, de votre passage au foyer?
La solidarité, il y a une solidarité énorme, parce qu'en venant ici, vous n'avez aucun sou. Jusqu'à ce que vous trouviez le travail, on vous donnait à manger, à boire. Jusqu'à ce que vous trouviez le travail. On vous demande 0 centime.
Et une chambre aussi, on vous héberge.
Un matelas ou un lit, vous dormir. Quoi. Ouais,
même si ce n'est pas officiel.
Ouais, mais c'est vrai.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti, en fait, au fond?
Parce que j'étais soif de savoir. Quoi. Je voulais savoir. Quand je sors, quand je vais travailler, je vois les gens, comment ils travaillent. Je regarde la structure française. Je suis curieux, voilà. Je veux dire, en restant ici, je ne vais rien comprendre. Quoi. Il faut que je sorte d'ici. C'est un risque énorme, hein, parce que coup, j'ai pris ma valise. Ça a commencé par un hôtel. 2 semaines après, j'ai trouvé un studio et voilà.
Comment favoriser alors ce passage entre l'intérieur du foyer et le monde extérieur?
Alors, d'abord, avoir une salle obligatoire dans chaque foyer de l'alphabétisation. C'est très, très, très important. Parce que la plupart des 80% des gens qui habitent au foyer, ce sont des Maliens. Ces 80% viennent des régions des Cailles. Les régions des Cailles, 80% c'est de Soninké. Les Soninké, ils vont tous à l'école. Les plupart, hein, c'est d'aller passer, ça a changé. Vous parlez passé, école coranique. Alors quand vous venez ici, c'est pas ça ici. Il faut savoir lire et écrire en français. Et les gestionnaires Adoma des foyers des travailleurs immigrés, à rendre obligatoire d'avoir un salle d'alphabétisation, je répète encore, dans 5 foyers. C'est très important. Un homme qui ne sait pas lire n'a pas de terre, vous comprenez? Donc on est sacrifié. Donc avec tout ce douleur-là, vous imaginez, vous allez au travail, vous avez ces douleurs en vous que vous portez, et vos collègues veulent que vous les souriez toute la journée. Vous imaginez les poids que nous portons sur nous? Tout ça pour que la famille vive mieux. Ça veut dire nous-mêmes, notre vie ne compte pas. Mais c'est une gâchis énorme.
Et vous m'avez dit d'abord que tous les résidents ici ont un poids dans la tête.
Ouais, ouais. Le poids qui est dans la tête, vous êtes là, célibataire, alors que vous êtes marié, vous voyez un peu pas. C'est une double peine, quoi. La femme, sa douleur là-bas, vous aussi. Les enfants, vous, vos enfants, ils grandissent sans vous, déjà, vous ne pouvez pas les éduquer. En fait, vous êtes comme un homme sans terre, quoi, parce que vous n'avez pas d'enfants là-bas, ni ici, parce que ces enfants, ils grandiront avec la maman. Ils ne vous connaissent pas. Vous le voyez, je ne sais pas, tous les 5 ans, une fois, tous les... Il a 10 ans, vous l'avez vécu en 2 fois. Vous imaginez ? Est-ce que vous pouvez éduquer cet enfant ? Non.
Et pourquoi ça se passe comme ça ?
Parce que de fait qu'on est venu, on a toujours voulu rester qu'ensemble, on n'a pas cherché à se former, à changer de métier, pouvoir gagner un peu plus mieux sa vie. T'as un boulot, garde-les surtout. Il y a tes enfants en Afrique, tes femmes qui comptent sur toi. Donc tu ne peux pas te permettre d'aller à l'école. Mais aller à l'école, tu peux aller à l'école en soir. Ou bien au foyer, on peut avoir une cour au foyer après le boulot, je ne sais pas, on peut se former. Mais il n'y a pas tout ça. Donc du coup, on est prisonniers de nous-mêmes. Quoi. Je ne sais pas si c'est de nous ou si c'est l'histoire. Mais en tout cas, c'est comme, je vais dire que depuis l'indépendance, tous les Maliens qui sont ici, c'est comme les générations sacrifiées pour les Maliens. Quoi. On se sacrifie pour notre pays. C'est même plus pour la famille, c'est pour le pays même. Parce que l'argent que nous envoie le travail malien au Mali, c'est presque 2 fois le budget des pays, quoi. Vous imaginez un peu, quoi. Mais est-ce que c'est un sens de continuer à vivre comme ça? Est-ce que c'est un sens?
Je ferme tout de suite. Ah oui, pour
tout le monde a déménagé ici.
Hein?
Tout le monde a déménagé.
Ouais.
Dans un moment, on va venir. Samba Sangaré.
Ouais, c'est ça. Il est là.
Ah, il est où pour la
volée? Ben, ils sont déjà pressés là. Vous êtes pressés, ils sont pas revenus.
Ah oui, on va y aller.
Je vais m'en occuper, sortez là. Bon, maintenant, on va laisser les Mali ici.
Laissez les Mali ici.
D'accord.
Ok.
Arna.
Attends, on va aller tout à
l'heure.
C'était sur les docks. À la source de la Fontaine au Roi. Avec Camara Sidi, Dabou, Sénéké, Camara Ousmane, Salou et Abdelkader.
Ça passe.
Prise de son, Adrien Gaza. Mixage, Pierrick Charles.
Vous devez partir aujourd'hui?
Oui, je vais partir.
Vous voulez partir aujourd'hui?
Mais vous êtes un peu en retard là, non?
On n'est pas en retard.
Et vous laissez tout ça?
Tout ça, on va le laisser ici.
Ça y est, c'est fini, alors vous quittez la chambre?
Oui, on quitte la chambre. Et on espère retourner encore d'ici 3 ans, dans 3 ans. On ne sait pas ce qui va, ce que les 3 ans vont nous réserver.
Attaché de production, Christine Gage et Laure-Hélène Plancher. Merci à Adoma Île-de-France et au comité des résidents du foyer Fontaine au Roi. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Viviane Noël.
Cette émission a été diffusée la première fois le 29 juin 2011 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
freedom. Trouble of the world, trouble of the world, trouble of the world. Soon we'll be done. Trouble of the world, going home to live and go. No more weeping on wailing, no more weeping on wailing, no more weeping on.
Trouble of the world.